Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, que vous pouvez retrouver le jeudi à 13h15 et 19h15 sur la fréquence 91. On peut également écouter sur internet www.fmplus.org. Retrouvez les émissions sur les podcasts de Radio FM+. Je reçois aujourd'hui la poète Anne-Marie Jean-Jean. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour, merci de votre invitation.
Autour de l'anthologie de poésie chinoise parue en novembre 2018, cette anthologie rassemble des poètes de la modernité sur deux périodes distinctes. Donc, première période 1911-1939 et la période toute récente 1987-1939. 2014, avec des co-traductions de Anne-Marie Jean-Jean, écrivain, et de Shan Shanson, spécialiste de la poésie chinoise. Donc Anne-Marie, j'imagine que ça a été un travail de très très longue haleine, de produire cette anthologie, de faire les traductions.
Alors oui, effectivement, c'est un travail de longue haleine, mais comme j'ai l'habitude avec Shan Shanson de travailler, on travaille depuis assez longtemps ensemble. C'était un gros travail et en même temps extrêmement positif au niveau de la dynamique, de la compréhension de la langue. C'était passionnant.
Donc Shan Shanson, il est spécialiste de la poésie chinoise du 8e siècle,
voilà.
Professeur, peintre et calligraphe.
Mm-hmm.
Donc il est l'auteur des encres, de la couverture, des pages intérieures. Shan Shanson et Anne-Marie Jean-Jean traduisent avec justesse des poèmes chinois écrits entre 1917-1939, 1987 à 2014. Les rapports de ces poèmes-là à l'inoubliable tradition qu'ils bouleversent sont souvent tourmentés, parfois apaisés. Ils témoignent de formes diverses d'oppression, dont les pesanteurs quotidiennes, mélancoliques ou ironiques, d'amour ou de révulsion. Ils ne se résignent pas à la réalité massivement établie et au langage en cours. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux périodes d'écriture, Anne-Marie, qui sont de visions différentes de la poésie, et peut-être présenter une rupture, par exemple ces poèmes de 1917 à 1939 marquaient une rupture avec les poèmes antérieurs.
Avec la tradition.
Avec la tradition.
Disons qu'au début du siècle, il se passait énormément de choses en Chine. Comme on en a la mémoire, puisque de la fin du 19e jusqu'à, disons, les années 50, c'est une suite et de batailles et de bagarres, y compris sur le point de vue, sur le plan intellectuel. Et donc, il y avait les intellectuels qui étaient regroupés dans ce mouvement du 4 mai 1919, et qui voulait qui voyait très bien que la Chine avait un gros retard par rapport au monde, et en plus la Chine était vraiment en danger. Et donc tous ces gens se sont rassemblés pour que les choses bougent. Et il y a quelque chose, il y a un phénomène énorme dont on ne s'est pas rendu compte, sans doute sur le moment des conséquences, mais qui est énorme, c'est la suppression des examens impériaux.
Oui.
Donc ça, il y a ce phénomène-là. Et le deuxième phénomène, c'est l'adoption de la langue parlée et non plus d'une langue uniquement accessible aux lettrés. C'est la langue courante qui est utilisée aussi bien au niveau des journaux. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un bouleversement majeur. Les journaux et donc les littéraires, évidemment, s'en emparent. Et celui qui a théorisé le plus profondément, c'est Rousseau, et qui est extrêmement célèbre. Donc il a dû partir, lui, au moment du maoïsme, il a dû partir aux États-Unis. Il y a vécu assez longtemps, mais il est revenu à la fin de sa vie vivre à Taïwan. Et il a toujours été extrêmement, estimé par tous les littéraires chinois. Hein. Et donc il y a un texte qui est extrêmement célèbre, qui est connu par tous les Chinois et qui est donc le tireur de Pousse-Pousse.
Que nous allons découvrir, Anne-Marie, nous allons le lire, hein, ce tireur de Pousse-Pousse, écrit par
Roucheux. Donc, et c'est un texte qui date de 1917. Donc il faut voir le bouleversement que ça peut représenter, puisque le tireur de Pousse-Pousse est un homme vraiment du peuple, un homme très pauvre. Le tireur de Pousse-Pousse. Pousse-Pousse, 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 viens et prépare-toi à t'envoler. Le client guette l'homme tireur de Pousse-Pousse quand tout à coup, une lancinante et profonde vague le submerge. Il demande au tireur « Quel âge as-tu cette année au juste ? Tu tires le pousse-pousse depuis combien de temps ?» Le tireur « J'ai 16 ans, je tire depuis 3 mois déjà, mais toi l'ancien, ne t'inquiète pas. » Le client « Tu es trop frêle pour ce métier, je ne peux pas m'asseoir dans ta voiture. Si je le fais, je vais me sentir triste et misérable. » Le tireur « C'est la moitié de ma journée. Je n'ai pas fait d'affaires. J'ai froid. J'ai faim. Ton vieux bon cœur est bien incapable de rassasier mon ventre vide. C'est vrai, je suis trop jeune pour ce métier, mais même le policier ne s'occupe pas de moi. Alors toi, l'ancien, tu es qui ?» Le client acquiesça de la tête et, montant dans la voiture, dit « Conduis-moi jusqu'à l'aile ouest du ministère de l'Intérieur. » Donc c'est un poème de 1917.
Un poème de 1925, écrit par Fenchu. Je suis un petit fleuve. Je suis un petit fleuve qui n'aime pas être passé à côté de toi. Toi, tu n'aimes pas quand se dessine l'aube, la vague douce du fleuve. J'ai traversé une forêt, douce vague qui se balance, mais quelques-unes des feuilles vertes coupées devinrent ton vêtement. J'ai inondé une immensité de fleurs, vague douce qui scintille avec tant de corolles colorées à tisser pour qu'elles deviennent ta couronne. À la fin, j'aborde une mer cruelle, mais un vent fou souffle sur la mer tout aussi folle à faire tomber ta couronne de fleurs, à déchirer ton vêtement. Je t'aime aussi à marée haute, errant, errant dans l'inconnu sans limite, mais dans cette esquisse, toi, pareil à l'aube, tu as disparu aussi. Avant de retourner à cette anthologie, je vais vous poser quelques questions, Anne-Marie, puisque vous m'avez confié que vous avez écrit quand même de nombreux recueils avant de rédiger avec Sean Johnson cette anthologie. Au départ, il y a cette rencontre avec ce calligraphe, Sean Johnson, et sa famille également. Donc, Sean Johnson a été l'inspirateur, ce calligraphe, de plusieurs livres qui sont venus, comme L'encre phénix, par exemple.
Alors, ce sont des livres à deux, hein, puisque c'est l'histoire, L'encre phénix, c'est l'histoire de la famille Sun. Depuis la fin du 19e, c'est une famille qui traverse le siècle. Et comme ce siècle est particulièrement turbulent, il se passe plein de choses. Et donc, dans L'encre phénix, j'ai essayé de... Le fil rouge, c'est l'histoire familiale, donc la petite histoire. Mais sur la page de droite, par exemple, c'est toujours l'histoire nationale ou les grands événements qui font résonance et donc ricochet dans les deux histoires. Voilà, c'était ça le principe de base, à partir des récits ou des confidences que Sean Johnson a bien voulu faire. Et peut-être que ça lui permettait aussi d'avoir une vue un peu globale et distanciée, oui, par rapport à tout ce qui s'était passé.
Alors, un autre recueil autour de cette famille est L'os et l'esclave, qui mêle aussi petite et grande histoire.
Alors, L'os et l'esclave, c'est plus particulièrement l'histoire de Sean Johnson. Il raconte comment il a étudié la calligraphie sous la direction de son père. Et puis, comme c'est un enfant qui est un peu turbulent, tout ce qui est arrivé, par rapport aux événements et tous les engagements qu'il a pris, jusqu'au moment où il doit partir de Chine, bien entendu.
Un autre recueil, c'est Le cheval de Ming Dao, qui est paru aux éditions Domins et qui revient sur le vécu des grands-parents de Sean Johnson.
Alors, Le cheval de Ming Dao, ça part d'une réflexion que Ming Dao avait fait, donc qui est le grand-père de Sean Johnson, et qui est très émouvant. C'est « J'ai un cheval dans le cœur, il faut que je le suive ». Et on trouve, et moi j'étais bouleversée quand je sais que la personne qui l'a prononcé et qui l'a ressenti très fort est quelqu'un qui a fait 30 ans de bagne quand même. Voilà. Donc, dans les deux premiers livres, on a essayé de suivre, pas de manière objective, puisque c'était impossible, mais de manière quand même rationnelle, ce qui s'est passé. Tandis que dans Le cheval de Ming Dao, Sean Johnson et moi, on se libère d'une émotion, on va dire, en racontant d'autres choses, d'autres aspects. Et là, Sean Johnson va calligraphier à peu près tout le recueil. Bon, moi, je fais 3 collages et Sean Johnson fait le reste des calligraphies qui sont très, très belles, qui sont remarquablement belles.
Et un autre recueil, c'est Poèmes de prison, qui est un recueil récent autour d'un dissident.
Alors, c'est un dissident célèbre. Bon, oui. Certainement, les auditeurs l'ont vu à la télévision, puisqu'il est intervenu plusieurs fois. C'est Liao Yiwu, et qui vit maintenant en Allemagne, et qui a pu être hébergé en Allemagne, on le sait, sur l'intervention de Angela Merkel. Mais là, j'avais choisi les poèmes de prison, parce que, bon, suite à une discussion avec Sean Johnson, qu'est-ce que c'était que la poésie, etc. Et comme on ne s'entendait pas du tout, on a fait un essai de traduction de 1 ou 2 poèmes. Et puis, bon, et effectivement, quand j'en ai traduit 2, j'ai dit, bon, ben, on fait toute la série des poèmes de prison. Et qui a eu le prix du poète résistant, hein, prix international du poète résistant.
On revient à l'anthologie avec un poème « Eau morte » de...
Alors, de Wen Yi Tuo. Alors, je tiens beaucoup à ce poème. Pourquoi ? Parce que il marque évidemment le désespoir d'une certaine frange de la population par rapport à l'état de la Chine. Et je tiens d'autant plus à ce poème qu'il a été écrit en 1926 et que Wen Yi Tuo prononçait l'éloge funèbre d'un ami poète assassiné en 1946 et qu'à la sortie de la cérémonie, il est lui-même assassiné. Eau morte. C'est un ravin de désespoir, croupissant d'une eau morte. Le souffle d'un vent léger n'y peut soulever la moindre ride. On ne peut qu'y jeter quelques cuivres détériorés et des saletés putrides. Il serait même agréable d'y déverser des reliefs de repas. Le cuivre verdissant deviendrait peut-être jade. Sur la boîte en fer rouillé apparaîtraient des pétales de fleurs de pêcher, et laissant encore du temps, l'huile tisserait de la soie, et les moisissures en s'évaporant deviendraient nuages rouges. Je saute un peu, quelques paragraphes. Alors ce ravin de désespoir croupissant d'une eau morte, c'est donc exagéré ? En panoramique, ce sera un peu plus clair. Si les grenouilles ne supportent pas le silence, on compte quand même faire entendre la chanson de l'eau morte. C'est un ravin de désespoir croupissant d'une eau morte. Ici, la beauté ne peut pas exister. On ne peut au mieux que cultiver le hideux, le laisser advenir. Et tout en observant l'ancien, si mal inventé, imaginez. Quel sera ce monde ? On mesure depuis 26 l'évolution du pays.
Alors, à noter, cette anthologie est bilingue. Alors, elle a été publiée aux éditions L'Harmattan, dans la collection Levée d'encre. Et donc, en novembre 2018. Je vous propose des extraits d'un poème qui m'a beaucoup touchée, qui est dédié à la nourrice de l'auteur, enfin, ou une nourrice. L'auteur est Ai Chin. Dayan He, aujourd'hui, en regardant tomber la neige, j'ai pensé à toi. Elle va recouvrir peu à peu l'herbe de ta tombe. Ton ancienne maison fermée aux chenaux asséchés aux tuiles pleines de lichen. Ton minuscule champ mis en gage. Le banc de pierre moussue devant la porte. Dayan He, aujourd'hui à cause de la neige, je me souviens de toi. Avec la paume épaisse de tes grandes mains, tu me portais contre ta poitrine avec tendresse. Après avoir allumé le feu du fourneau, après avoir secoué ton tablier pour en ôter la poussière de charbon, après avoir préparé le repas de riz déjà cuit, tu posais un bol luisant. Rouge sombre de sauce soja sur la table noire brillante, après avoir soigneusement réparé les vêtements déchirés par les ronces de la montagne, après avoir pansé la main blessée de ton fils cadet par le couteau à bois, après avoir exterminé un par un les poux dans les vêtements de travail, après avoir cueilli le premier œuf du jour, avec la paume de tes grandes mains, tu me serrais contre ta poitrine avec tendresse. Du propriétaire, je suis le fils. Lorsque j'ai épuisé ton lait, mes parents m'ont repris chez eux. Un peu plus loin dans le texte, Dayan He est morte, sans avoir vu se réaliser son rêve. Au moment où elle est morte, son fils n'était pas à ses côtés. Au moment où elle est morte, son mari, lui qui l'avait souvent frappée et insultée, pleurait chacun de ses 5 enfants, était accablé de chagrin quand elle est morte. Dans un souffle léger, elle a appelé par son prénom son fils de lait. Diane Hay, déjà morte à ce moment-là, son fils de lait n'était pas à ses côtés. Diane Hay, en mourant, avait les larmes aux yeux. Pendant 40 ans de vie misérable, elle n'a obtenu que la pénible amertume de l'esclave avec 4 yuan pour le cercueil, quelques tiges de riz dans une tombe de terre, la plus minuscule possible, et la cendre de quelques monnaies de papier. Diane Hay est morte, les larmes aux yeux. Abordons maintenant la deuxième partie de cette anthologie, donc avec des poèmes écrits à partir de 1987. Et Anne-Marie Jean-Jean, vous dites avec Shan Shan Soon, pour notre part, dans la deuxième partie de l'anthologie, nous avons choisi en ce début du 21e siècle de lire ce que font les jeunes gens maintenant, ce qu'ils écrivent. Plus d'un siècle après, dans une Chine qui a connu tellement de bouleversements, que font-ils, que font-elles de cet héritage laissé par leurs grands devanciers qui ont osé ébranler la tradition pour que la poésie, la littérature reste bien vivante, sans renoncer pour autant à l'ensemble de ce qui a fait depuis l'origine la beauté, la grandeur de la poésie chinoise. Donc, si vous souhaitez ajouter quelque chose, Anne-Marie, avant qu'on passe à la lecture.
Alors oui, c'était très intéressant de faire un peu le grand écart, ce qu'on nous a reproché. Mais on tenait vraiment à voir qu'est-ce qu'était devenu cet héritage, cette liberté que d'autres avaient durement gagnée.
Très bien.
Donc, quelques lignes de Sun Wenbo, notre réalité. Insuffisance des mots, leur part obscure, en dessous. À jamais, tu ne sauras ce qui s'y dissimule encore. Âme, un mot très ancien, qui ne peut en rien l'expliquer. Et la dernière réflexion, pénétrer cette part obscure, n'est-ce pas illusoire? Et les mots, un faux espoir, devoir s'arrêter. Ah, encore la part obscure, là les mots arrivent, n'arrivent pas, je suis la tombe des mots.
Maintenant, un poème écrit par Siu Hua. Traverser plus de la moitié de la Chine pour dormir avec toi. À noter que ce poème est tellement connu que ce vers est devenu un proverbe en Chine. En fait, que tu dormes, que tu sommeilles, c'est pareillement cela. Le choc des corps de toute leur force, c'est cette vigueur qui hâte l'éclosion des fleurs. Ainsi, cette fleur printanière nous illusionne et nous laisse nous tromper sur le renouveau de la vie qui s'ouvre. Traverser plus de la moitié de la Chine, qu'importe le volcan jaillissant ou le fleuve asséché, délaisser les prisonniers politiques ou les SDF, croiser en chemin la bouche des fusils visant le cerf et la grue à tête rouge. J'ai traversé la forêt de fusils, la pluie de plomb pour dormir avec toi. J'ai attaché une infinité de nuits à une seule aube pour dormir avec toi. et dans mes mois infinis, un mois court après un autre mois. Bien sûr, quelques papillons peuvent m'engager à m'égarer, à saisir quelques louanges que je peux prendre pour le printemps et confondre Indian avec mon village ou mon pays natal et île. Tout cela pour ma seule raison. Aller dormir avec toi, c'est inévitable. Un poème écrit en 1976. Un petit extrait, Anne-Marie, si vous le souhaitez.
Absolument mourir de ta main, qui a été écrit en 2008 par Yu Xinqiao. Ne pas être brûlé par ta main, c'est ne pas pouvoir nommer la flamme. Ne pas être effleuré de tes doigts, c'est ne pas pouvoir nommer la pierre précieuse. Et toi, toi, tu es apparu. En te croisant seulement une première fois, mon cœur est devenu chiffon. Ce monde a été détruit, car ton éclat est celui d'une lame hors du fourreau. Ne pas être de ta propre main tué, c'est vivre hors de tout sens. Ne pas être brisé par ta propre main, c'est ne pas pouvoir reconstruire le cercle du miroir. Pour vivre, je veux mourir, absolument mourir de ta main. C'est un poème qui est très connu, mais car ton éclat et celui d'une lame hors de son fourreau avaient été censurés.
Ah, c'est une femme, hein, elle est née en 1966. Oui, je vois, affectée de divers handicaps.
C'est la moitié de la Chine. C'est le texte que tu as lu.
C'est le texte que j'ai lu.
Voilà,
d'accord, oui. D'accord, oui. Ce texte, traverser la moitié de la Chine pour dormir avec toi. Et ce dernier poème, donc, était écrit par...
Yu Xinqiao.
D'accord.
C'est devenu une chanson populaire célèbre. Mais, car ton éclat est celui d'une lame hors de son fourreau,
oui,
avait été censuré dans la chanson.
D'accord. Très bien, très bien. Alors Anne-Marie, Jean-Jean, comment peut-on se procurer vos recueils puisque
tout
vous avez
à fait,
écrit beaucoup de recueils.
Tout à fait, j'ai votre libraire préféré en les commandant. Hein, ce sont des livres parus chez l'Harmattan et ils sont tout à fait accessibles.
Merci Anne-Marie pour votre présence dans la matinale et puis nous avoir présenté cette anthologie de poésie chinoise de la modernité, première partie du XXe siècle et donc poème de ce fin de XXe siècle et ce début de XXIe siècle co-rédigé et traduit avec Shan Shanson et Anne-Marie Jean-Jean. Merci.
Merci également à vous. Merci.